Bienvenue à la communauté des consciences qui s'éveillent. Chaque mercredi matin, écoutez une interview exclusive avec un intervenant passionné par le mieux-être, alliant un équilibre entre l'âme, le corps et l'esprit. Des personnes en quête de sens porteront leur voix au micro du podcast pour vous apporter une meilleure connaissance de vous-même, des autres et de l'environnement. Il y aura aussi bien des thérapeutes que des médecins, des auteurs, mais pas que, puisqu'il y aura aussi des artistes, des réalisateurs, des journalistes et des porteurs de projets sens. Mon objectif est qu'après chaque interview, votre énergie se sente décuplée, que vous soyez reboosté pour croire en vos rêves et pour continuer votre cheminement personnel. Je m'appelle Evelyne Danglot, je suis professeure de français langues étrangères, mais aussi passionnée par le fonctionnement de l'humain, un brin idéaliste et rêveuse. Je suis convaincue que nous sommes des êtres illimités et que nous pouvons transcender toutes nos croyances limitantes pour arriver à une meilleure version de nous-mêmes sur Terre. Pour soutenir ce projet Sens, vous pouvez vous abonner au podcast pour suivre tous les épisodes, vous abonner à la newsletter sur le lien Linktree Bio via le compte Instagram ou Facebook, nous suivre sur les réseaux mais aussi faire un don ou commander un Zafu ou Bolster de la marque Consciousness, fabrication française et produit de grande qualité assuré. Très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très contente d'être aux côtés de Camille Tess. Salut Camille.
Salut Evelyne.
Alors, je vais te présenter, bien sûr, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Je vois qu'il y a un chat aussi qui te travaille.
J'ai un chat sur le chat.
Donc, tu es militante féministe, professeure de yoga et aussi autrice de 2 ouvrages. Donc, auparavant, tu étais aussi journaliste. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'appuyer sur ton ouvrage que je montre à la caméra pour ceux qui veulent voir, Politiser le bien-être. Voilà, donc présenté chez Binge. Donc c'est la première fois justement que j'ai un ouvrage entre mes mains qui a été édité par Binge. Donc dans la première partie, tu parles de la déconstruction du bien-être. Dans la deuxième partie, tu parles de la reconstruction du bien-être. Donc c'est vraiment les deux opposés. Ma première question, en fait, c'était vraiment de te demander déjà pourquoi avoir changé de métier, et puis aussi pourquoi avoir écrit cet ouvrage. Est-ce que tu peux nous parler un peu du cheminement?
Oui, bien sûr. Alors, j'étais effectivement journaliste et je travaillais sur des questions de justice sociale, donc je m'intéressais à toutes les inégalités, à toutes les injustices de notre société. Et le métier de journaliste est un métier formidable et magnifique, et très intéressant, mais aussi complètement drainant, très intellectuel, où le corps n'a pas forcément une très grande place, où il y a finalement assez peu de journalistes qui ne sont pas aujourd'hui au bord du burn-out en permanence, comme beaucoup de personnes, bien au-delà du monde du journalisme, évidemment. Et en fait, j'ai saturé, franchement, de ce métier. Et aussi, en tout cas, dans mon expérience, dans le domaine que je fréquentais en tant que journaliste, qui est aussi un monde avec beaucoup d'enjeux autour d'ego, de compétition, très, très centré autour de la carrière et tout, et je ne m'y retrouvais plus tellement. Et puis, en parallèle, mes dernières années de journaliste ont été accompagnées par ma pratique du yoga qui me faisait beaucoup de bien au corps et à l'âme, on va dire. Et du coup, j'ai fini par imaginer que je pouvais faire une formation de prof de yoga, ce que j'ai fait. Je suis partie en Inde pour me former, à la base plutôt pour avoir un meilleur niveau. Et puis, je me suis laissée prendre au jeu. Si bien que j'ai fini par graduellement, peu à peu, passer de mon activité de journaliste à mon activité de prof de yoga. Et en fait, c'est en arrivant dans le monde du yoga et plus généralement du bien-être que je me suis rendu compte que ce qui me semblait normal, à savoir regarder le monde avec un regard, des lunettes politiques, on va dire, des lunettes regarde les grandes dominations dans les milieux, mais aussi les discours qui sont véhiculés dans le milieu du bien-être et qui, à mon sens, peuvent être très toxiques et nous rendre encore plus individualistes que ce qu'on est déjà et avoir un effet, des conséquences en gros sur nous et plus généralement sur la société très très délétères. Je me suis rendu compte que c'était un milieu où j'étais peut-être pas la seule, mais en tout cas en minorité à voir ça, à regarder ça et à me poser des questions là-dessus. Je peux dire aujourd'hui que le monde du bien-être, que ce soit le développement personnel ou le monde du bien-être plutôt esthétique, ou alors, enfin, peu importe, le bien-être, c'est un immense avec plein de choses différentes, c'est souvent des espaces qui sont très dépolitisés, c'est-à-dire qui regardent tout à travers la lunette individuelle, comment je fais pour que Madame Machin aille bien, sans jamais se poser la question du collectif, de la société, de comment est-ce que, qu'est-ce qui peut influencer, par exemple, quels sont les biais qui peuvent influencer tel ou tel praticien, telle ou telle praticienne. Dit autrement, le monde du bien-être pense souvent que le racisme, le sexisme ou l'idéologie capitaliste néolibérale s'arrête à la porte du studio de Pilates ou du cabinet de naturopathie. Et évidemment, c'est pas vrai du tout.
Complètement. Mais je voulais aussi rebondir sur quelque chose. Dans un premier temps, tu sais, tu parles du bien-être et t'expliques que ça englobe plein de choses. D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans ton ouvrage. Mais comment est-ce que toi, tu pourrais définir en fait ce qu'est le bien-être pour que les auditeurs et les auditrices comprennent un peu ?
Le bien-être, ce sont toutes ces pratiques qui ont vocation à nous permettre d'atteindre un équilibre à la fois physique, spirituel, émotionnel et même social au sens relationnel. Et donc aujourd'hui, dans le milieu du bien-être, on met tant les pratiques psychocorporelles comme le yoga, le pilates, la muscu, ce genre de choses, que les pratiques d'accompagnement quasiment thérapeutiques, la nutrition, je sais pas, les naturopathes, les toutes les médecines extra-occidentales comme la médecine ayurvédique par exemple. On y met aussi un certain nombre de pratiques spirituelles. Parce qu'on considère que les pratiques spirituelles nous aident à trouver un équilibre. Et puis évidemment, même les pratiques esthétiques, les pratiques thérapeutiques. Enfin voilà, c'est tout ce qu'on se dit, c'est une pratique dont le premier objectif est de m'aider à atteindre un équilibre. On peut considérer que c'est une pratique de bien-être.
Il y a aussi quelque chose qui est frappant, c'est que finalement, tu classes un peu en fonction des différents pays, on se rend compte qu'on se porte en fait vers différents marchés du bien-être. Tu cites aussi par exemple, je pensais à ça, mais le Mexique qui va se concentrer plutôt sur tout ce qui va être diète, etc., enfin minceur, alors que le Japon ça va plutôt être tout ce qui est esthétique, le maquillage, enfin c'est bien ça.
En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on étudie le marché du bien-être, on se rend compte qu'en fonction des pays, il y a des domaines qui fonctionnent plus ou moins bien. Effectivement, dans certains pays, c'est le marché de l'esthétique qui va primer, dans d'autres ça va être plutôt des choses un peu thérapeutiques, ça va vraiment dépendre.
Oui.
Mais après, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les pays du monde, le marché du bien-être est en pleine expansion depuis une trentaine d'années. Et ça dit quelque chose de notre société aussi, et c'est une question que je me pose dans le livre. Pourquoi est-ce que tout à coup, on s'est tous mis à consommer comme ça des produits de bien-être ? La raison, elle est plurielle. D'abord, c'est parce que dans une société où on ne contrôle plus rien. La crise du Covid, par exemple, on était tous complètement démunis face à ça. Et ben en fait, on se tourne vers des on peut contrôler pour notre bonheur, quoi. Donc, pendant le Covid, vous pouvez rien faire pour changer la donne, on va dire, au niveau de la société, régler cette crise, par exemple. Il vous reste les skincare routines, il vous reste les méditations, il vous reste votre pratique de yoga. Et aussi, en fait, on est aussi dans une culture dite néolibérale, donc une culture capitaliste néolibérale. Cette culture capitaliste néolibérale, elle se caractérise par le fait qu'elle a vraiment besoin qu'on considère, nous, humains, qu'on est responsable à 100% de nos bonheurs et de nos malheurs. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle a besoin, toi et moi, par exemple, Evelyne, qu'on pense que si on est malheureuse, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est faire plus de yoga, faire plus de développement personnel, faire attention à manger les bons compléments alimentaires, etc. Comme si le bonheur, c'était juste quelque chose d'individuel. Or, pas du tout le cas. En fait, si aujourd'hui les gens sont malheureux, c'est quand même globalement parce qu'on est dans une société hyper individualiste, avec très très peu de sens, nos métiers, nos vies sont de plus en plus précaires. En fait, les gens s'appauvrissent aujourd'hui, alors qu'à une certaine époque, les gens s'enrichissaient plutôt. Il y a de plus en plus d'inégalités, il y a du racisme, il y a du sexisme, il y a de la violence, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va mal. Évidemment que moi, je suis prof de yoga. À la marge, ça fait du bien de faire du yoga. Hein. C'est pas ça. C'est pas de dire qu'il faut arrêter de ces pratiques. C'est juste de dire qu'il faut arrêter de leur confier notre bonheur parce que ça va pas fonctionner.
Complètement. Mais d'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu me dis parce que tout à l'heure, j'écoutais en fait une émission justement, je crois que c'était sur France Info, et ils expliquaient qu'il y avait l'addiction à la chaise, tu sais, mais ils avaient adopté ça d'un ton assez ironique en expliquant que les enfants de 0 à 6 ans, ils sont tout le temps en mouvement. Dans cette conscience du corps, ils ont toujours besoin de bouger, etc. Alors que nous, on est tout le temps assis. Enfin, c'est comme si que notre meilleur ami, c'était notre chaise et on passe toute la journée assis.
donc on a des problèmes. Donc toi qui es vraiment dans cette culture du corps, est-ce que tu peux le voir par exemple dans tes cours de yoga, qu'il y a vraiment des corps qui sont déformés justement par ces assises?
Ouais, je dirais, déformé, je pense que c'est un terme un peu fort, mais c'est vrai que en tout cas, on se rend compte que depuis quelques générations, on passe de plus en plus de temps sur des chaises et que ça a pour conséquence, ça a des conséquences quoi sur nos corps. Ça crée des problèmes de dos, ça crée des problèmes. On dit que par exemple, les muscles du psoas se raccourcissent et que ça peut créer et ça crée des problèmes d'équilibre. Enfin voilà, il y a tout un tas de théories autour de ça. Et c'est après, faudrait en parler avec des médecins ou avec des spécialistes de sujet, mais en tout cas, moi, d'un point de vue strictement, on va dire politique, en tout cas de projet de société, moi, je trouve ça extrêmement médiocre, la société dans laquelle on est, en termes de effectivement ce qu'on fait avec nos corps. On passe d'un stade où quand on est enfant, on joue, on grimpe aux arbres, on fait des trucs très bizarres avec le corps, on roule partout. Notre corps est un espace de plaisir, un espace de jeu, un espace de joie. Et puis très vite, on arrive à l'école et on est complètement dompté. On nous colle effectivement sur une chaise 6 à 8 heures par jour. Il y a une chaise dont les gens, pour certains, partiront quand ils partent à la retraite parce qu'ils vont faire des métiers de bureau. Pour les autres qui font pas des métiers de bureau, ça sera peut-être des métiers extrêmement pénibles pour les corps. Et donc, en fait, c'est comme ça que notre société est structurée. C'est autour du travail, donc autour de la souffrance corporelle. Et c'est bien dommage parce que, outre le fait que c'est vraiment pas bon pour la santé, c'est une drôle de façon d'habiter la Terre, quoi. Enfin, on est sur Terre une seule fois et en fait, on passe notre temps à faire autre chose que jouer et prendre du plaisir alors que à quoi bon, quoi, à part ça.
C'est pas faux. Alors justement, tu cites cela dans ton ouvrage. En se diffusant à grande échelle, le bien-être s'impose comme un impératif moral qui nourrit le marché de façon vertigineuse. Donc, tu nous en as un peu parlé, mais peut-être, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette phrase?
Oui, aujourd'hui, un impératif moral, c'est quoi? Un impératif moral, c'est quand quelque chose dans une société, on doit le faire, sinon on est considéré comme une mauvaise personne. Donc, quand on dit que le bien-être aujourd'hui est un impératif moral, on dit que si aujourd'hui vous ne donnez pas des gages, vous ne montrez pas que vous prenez soin de vous, au sens vous faites de l'activité physique, vous faites attention à votre peau, vous mettez votre crème solaire, vous prenez des compléments alimentaires, vous faites attention à votre nourriture, vous faites même attention à votre âme, à votre spiritualité. Si vous ne montrez pas ça, on va considérer que vous êtes une mauvaise personne. Le problème de ça, c'est que en fait c'est extrêmement bon, déjà en fait c'est un droit normalement d'avoir envie de pas prendre soin de soi. En fait, on a le droit de pas avoir envie de prendre soin de soi. Que cet impératif moral, il enrichit surtout le marché du bien-être. Les gens qui sont les plus contents de cette espèce d'obligation à travailler sur soi, cette obligation de bien-être, c'est les entreprises qui travaillent là-dedans, quoi. Et puis, c'est aussi extrêmement violent et stigmatisant pour les personnes qui n'ont ni le temps ni l'argent de prendre soin d'elles.
Bien sûr.
Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas, si vous êtes femme de ménage et que vous avez 2 heures de train le matin et 2 heures de train le soir, pour rentrer chez vous avec le salaire d'une personne de votre milieu, enfin, de toute évidence, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps pour dépenser de l'argent pour aller au Pilates, quoi. Enfin, c'est une évidence. Donc, si on considère que vous êtes une mauvaise personne parce que vous ne prenez pas soin de vous, il y a un problème. Et un excellent exemple de ça, c'est les émissions. En France, c'est moins connu, mais aux États-Unis et en Angleterre, il y en a beaucoup, des émissions d'amincissement, où on aide les personnes grosses à mincir. En fait, on aide les personnes grosses à mincir. On pourrait dire, c'est bien, c'est sympa, mais en fait, déjà, c'est extrêmement stigmatisant et grossophobe. Ça veut dire que c'est considéré que si on est gros, il faudrait forcément mincir, alors que la science aujourd'hui est assez claire sur le fait que c'est pas parce que vous êtes gros que vous êtes en mauvaise santé, et pas forcément plus qu'une personne mince. Il n'y a pas forcément de causalité directe. Mais surtout, on sait bien qu'aujourd'hui, les personnes grosses, statistiquement, c'est aussi les personnes pauvres. Pas toujours. Mais souvent, la précarité, parmi les personnes grosses, beaucoup sont précaires. C'est des choses qui sont liées. Et donc, stigmatiser les personnes grosses en disant, en gros, vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne prenez pas assez soin de vous, comme on l'entend souvent, en fait, on stigmatise aussi les personnes pauvres. Et donc, c'est extrêmement violent. Et en ce sens, le monde du bien-être participe à cette culture où les plus défavorisés sont aussi les plus jugés.
Oui, d'ailleurs, ça t'en parle, dans ton ouvrage, tu expliques vraiment qu'il y a une stigmatisation et en fait, il y a une sorte d'élite qui a vraiment accès en fait à ce bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui pour toi n'est pas acceptable forcément, puisque ça devrait être ouvert à toutes les classes sociales.
En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir accès à des espaces de bien-être, de douceur, de repos, si vous êtes une personne qui a de l'argent ou au moins du temps pour le faire. Par ailleurs, même si vous avez du temps et de l'argent, les espaces de bien-être, les cours de sport par exemple, ou les massages, ne vont pas forcément être ouverts aussi, ou en tout cas aussi sympathiques pour vous, si par exemple vous êtes une personne grosse, ou alors si vous êtes une personne âgée, ou si vous avez une très forte pilosité, ou des cicatrices, enfin voilà toutes ces choses qui, dans une société où, très très normée sur la question du corps, pour vous donner un exemple plus concret, moi je connais des personnes qui sont masseurs et masseuses et qui me racontaient que dans leur formation de massage et esthétique, il y avait vraiment une culture autour de se moquer des corps qui avaient des poils, qui avaient de la cellulite, qui avaient des cicatrices. C'est comme un truc un peu j'ai pas envie de masser ça. Mais en fait, il faut imaginer à quel point c'est violent pour quelqu'un qui arrive justement avec une de ces caractéristiques dans un espace de massage et qui vient pour de la douceur, vient pour du bien-être et ressort avec du jugement. Voilà. Après, le truc aussi, c'est que quelques centaines d'années, tout ce qu'on appelle aujourd'hui des pratiques de bien-être, je pense par exemple à la danse, je pense même à la cérémonie spirituelle, je pense à plein de choses comme ça, c'était pas des pratiques, c'était des pratiques qui existaient, mais qui n'étaient pas dans le marché du bien-être. C'est-à-dire que il y a 100 ans, vous n'alliez pas, enfin 200 ans, vous n'alliez pas payer une carte pour prendre des cours de danse. Peut-être que la danse, vous la faisiez au bal de votre village. Toutes ces pratiques, elles étaient comme intégrées dans le quotidien des gens. Et donc, on pensait même pas à dire « Ah, c'est des pratiques de bien-être ». Elles étaient intégrées dans le quotidien des gens. Mais maintenant que c'est plus le cas, on nous revend des trucs qui finalement devraient être en réalité gratuits. Enfin, dans un système qui n'est pas capitaliste. C'est parfois un peu étrange de se dire... Le truc le plus flagrant pour moi, c'est le jeûne ou les retraites en silence, les trucs comme ça, que moi j'organise dans des retraites dans la nature, à la campagne et tout, mais en même temps c'est bizarre de se dire ça. En fait, avoir accès à la nature et choisir de pas manger par exemple, ou choisir de pas parler, pourquoi on doit payer des centaines d'euros pour ça? C'est absurde. Le capitalisme, il faut dire des trucs aussi cons, quoi.
En fait, c'est vrai que dit comme ça, ça me fait réagir aussi parce que je me dis que c'est vrai que c'est dans notre nature profonde, finalement, c'est ça, quoi, de se reconnecter à la nature, d'être dans le silence. Et en fait, comme tu dis, on en vient à payer parce qu'on est complètement déconnecté dans une routine qui est de plus en plus rapide, où on n'a plus, en fait, le temps de prendre ce temps pour nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est... faut revenir à la source.
Mais en fait, c'est là où le capitalisme, le système capitaliste, donc qui privatise un certain nombre de choses pour nous les revendre ensuite est très fort. C'est comme, est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'eau? Enfin, l'eau, des marques comme Evian privatisent l'eau des montagnes, et nous revend de l'eau. C'est dingue. Effectivement, c'est pareil avec l'accès à la nature. Aujourd'hui, on est dans une société où pour accéder à la nature, qui, comme tu dis, est quelque chose qui est profondément bon pour nous, souvent on doit payer. Et on voit très bien, par exemple, en ville, plus les quartiers sont populaires, moins ils ont d'accès à la nature, à des parcs, aux arbres, une capacité à sortir de la ville. C'est extrêmement violent, en fait.
Complètement. Mais ça m'évoque, tu sais, ce documentaire En quête de sens avec Marc de Lagardière, où justement, il y a un des deux journalistes qui se retrouve aux États-Unis pour vendre de l'eau. Et il se dit que ça n'a pas de sens. Et il décide justement de partir en mission avec son ami pour créer ce documentaire. C'est vrai que on en est loin, mais et pourtant. Alors, je voulais aussi te citer quelque chose. Tu cites la philosophe Barbara Stiegler, je ne sais pas si je le prononce bien, mais dans son livre Il faut s'adapter, elle affirme que le néolibéralisme est non seulement un système inadapté à nous, mais qu'il est surtout un système qui requiert que nous nous adaptions à lui. Donc c'est clairement ça, c'est ce que tu dis en fait. Finalement, c'est à nous de nous adapter. C'est quand même on est à l'envers, quoi.
Oui, en fait, une société, un structuré, un fonctionnement dans une société, donc avec des institutions comme l'école, l'État, etc., normalement, ça devrait être à notre service, à nous, humains. Mais là, en fait, on a créé un système, le capitalisme, qui fait que c'est finalement nous qui devons nous adapter à lui. Donc, par exemple, l'exemple qu'elle donne, c'est dans l'éducation. Aujourd'hui, l'école nous apprend à être de plus en plus flexible parce que le système capitaliste a besoin qu'on soit très flexible, qu'on saute d'un métier à l'autre, qu'on saute d'un statut à l'autre, qu'on soit des auto-entrepreneurs, qu'on ait toujours un petit truc à vendre. Et ça, malheureusement, alors oui, ça permet Enfin, la flexibilité, on pourrait dire, ah, c'est super et tout. C'est vrai que c'est bien d'être flexible à certains moments de sa vie. Mais en fait, c'est épuisant. C'est comme ça que les gens font des burn-out. C'est comme ça que les gens, en fait, se retrouvent à essayer de monétiser tout ce qu'ils peuvent monétiser. Je sais pas, vous vous mettez à la peinture et vous vous dites, attends, est-ce que je pourrais réussir à la vendre sur Instagram ou est-ce que je pourrais réussir à... Enfin, voilà. Même vos loisirs, quelqu'un qui, je sais pas, faisait du miel. Moi, j'ai un voisin, comme ça, il faisait du miel comme un loisir. Puis, à un moment, il s'est dit, mais je pourrais vendre mon miel. Et puis, c'est devenu un modèle d'affaires aussi en complément de son travail. Enfin, donc ça, c'est vraiment le capitalisme qui a besoin de croissance, donc qui a besoin qu'on produise tout le temps plus de richesses, tout le temps plus de richesses. Et donc l'école va nous apprendre à être des bons entrepreneurs, à nous adapter, à proposer des nouvelles choses. Mais en fait, l'école ne devrait pas nous apprendre ça. L'école devrait nous apprendre à être plus solidaires les uns avec les autres. Elle devrait nous attendre à mieux communiquer les uns avec les autres, à mieux... Et acquérir évidemment un certain nombre de savoirs importants, mais aussi, enfin voilà, d'autres facultés, des facultés qui seraient plus intéressantes pour faire société de façon plus juste pour tout le monde, plus bienveillante, etc. À mon sens.
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que à un moment donné, j'ai constaté, tu sais, en faisant des remplacements dans les écoles, donc des remplacements d'instit, en fait, je mettais peut-être 10 minutes avant de commencer le cours avec des enfants de 3 ans en petite section. Et c'était 10 minutes, si tu veux, de bienveillance l'un envers l'autre pour développer de l'empathie. Ça allait juste être, par exemple, dire un compliment à son voisin. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une réelle transformation dans la cour de récré. C'est-à-dire que les enfants étaient beaucoup plus bienveillants les uns envers les autres. Ils revenaient, dès qu'il y en avait un qui se faisait un bobo, ils se prenaient dans les bras, ils venaient, enfin tu sais, ils se réunissaient, il y avait vraiment ça qui changeait, alors que d'habitude, dans les cours de récréation, c'est un peu chacun pour soi, hein. C'est un peu ça, quoi, tu vois, c'est déjà dans l'enfance.
Là, bien sûr, et puis quand on y pense, l'école et cette culture de la compétition, cette culture des notes, cette culture de nous mettre... par exemple, à l'école, moi, j'ai toujours été très bonne élève. J'étais vraiment une insupportable petite première de la classe, vraiment. J'adorais ce truc de compète, je voulais être meilleure que les autres. Et en fait, j'ai mis vraiment longtemps, et quand on me disait... les notes, ça sert à rien, la compétition, moi, ça me vexait parce que moi, j'étais bonne à ça, tu vois, ça m'énervait, je voulais pas qu'on arrête les notes, je voulais pas qu'on arrête la compétition. Et c'est plus tard, en devenant adulte, que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, quand t'es de l'autre côté, quand t'as d'autres facultés dans la vie, mais que l'école, c'est pas forcément le truc qui te passionne le plus et que pour diverses raisons, t'es moins doué, etc., mais en fait, ta vie, c'est comme on passe quasiment tout notre temps à l'école quand on est enfant, en fait, t'es constamment dans la violence, quoi, t'es constamment dans... toi contre l'autre et pas toi avec l'autre, et puis après t'arrives dans le monde du travail et c'est la même chose, et à aucun moment effectivement on a appris l'entraide, la bienveillance, l'empathie. Ça fait une société très violente où on est là, quoi.
Complètement. Mais alors moi j'avais une question justement, Camille, donc dans la deuxième partie de ton ouvrage aussi tu parles de plusieurs choses, tu parles aussi du bien-être révolutionnaire. Mais comment faire alors pour participer, pour contribuer à l'émancipation des individus ?
En gros, ce que j'essaye de montrer dans le livre, c'est que effectivement aujourd'hui, le milieu du bien-être, pour d'autres raisons qu'on n'a pas évoquées là, est très toxique. On sait que par exemple, le milieu du bien-être, c'est la moitié des dérives sectaires, c'est dans le milieu du bien-être. On sait qu'il y a énormément de dérives idéologiques dans le milieu du bien-être, notamment d'extrême droite. Il y a tout un pan du bien-être qui est profondément raciste, profondément misogyne. Enfin voilà. Donc pour toutes ces raisons, je pense que c'est légitime de critiquer le bien-être, mais souvent dans des milieux, on va dire un petit peu plus progressistes, je trouve qu'on jette aussi un peu le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire que on ne s'autorise pas à s'avouer que dans les pratiques de bien-être, il y a aussi des choses intéressantes que l'on pourrait garder, disons, pour un nouveau monde plus juste et plus émancipateur pour tout le monde. C'est ça que j'appelle le bien-être révolutionnaire. Pour moi, un bien-être révolutionnaire, c'est un bien-être qui... Donc, ce sont des pratiques qui favorisent l'émancipation des personnes. Qu'est-ce que ça veut dire, favoriser l'émancipation des personnes ? Ça veut dire que... Est-ce que nos pratiques, on les fait pour être plus aliéné, pour être plus des bons petits soldats du système? Par exemple, est-ce que tu utilises... L'autre jour, j'ai pris un taxi, et le taxi, il me disait, ouais, je travaille 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Et je lui dis, ah, mais comment vous tenez? Il me dit, je fais 2 heures de muscu le matin. Et bah, typiquement, ça, c'est utiliser une pratique de bien-être pour être un bon petit soldat du système, pour être productif au travail. Pour moi, ça, c'est poubelle, entre guillemets, parce que c'est... aliénant, c'est utiliser le bien-être pour de mauvaises raisons. De même, moi je connais évidemment énormément de femmes qui ne vont vers des pratiques de bien-être, notamment des pratiques sportives, que pour être plus mince, que pour être plus belle, parce qu'en fait on est dans un système qui valorise les femmes principalement pour leur esthétique. Et donc du coup les femmes vont vers le sport, par exemple, qui pourrait être un plaisir ou une joie juste pour ça. Donc évidemment, c'est vraiment pas très agréable. Mmh. Et on pourrait tout à fait imaginer que ces pratiques, elles nous apportent autre chose. Elles sont, pour certaines d'entre elles, des pratiques qui peuvent nous donner du plaisir, de la joie, ressentir des choses merveilleuses dans son corps. C'est moi, je vis avec le yoga, par exemple. Ce sont aussi des pratiques qui peuvent nous apprendre à nous réapprendre à ralentir dans un monde qui ne nous valorise que dans l'hyper-efficacité, que dans l'hyperaction. Par exemple, si vous faites de la méditation ou des marches en silence ou du qigong, des choses comme ça, ben vous réapprenez à votre corps en un sens à ralentir, alors que sinon, on est tout le temps dans l'hyperaction, l'hyper-efficacité. Et puis, ce sont aussi des pratiques qui, tout simplement, peuvent nous permettre de nous reposer, ce que je dis, j'appelle ça accueillir les vulnérabilités, c'est-à-dire reposer, déposer nos émotions, notre tristesse, pleurer, être en colère, enfin voilà, déposer tout ce qui nous pèse pour en ressortir plus en forme. Et puis être plus en forme, c'est aussi avoir l'énergie pour changer le monde, tout simplement. Enfin, et moi, je le dis tout le temps, j'ai beaucoup d'amis militants, très engagés, pour une planète plus verte, pour l'égalité entre tous et toutes. Mais en fait, souvent, ce sont des gens qui sont épuisés par leur combat. Et donc, du coup, eh bien, trouver des espaces de repos, c'est extrêmement important parce que sinon, on ne tient pas la distance. L'engagement, le militantisme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il faut pouvoir se reposer. Mmh. Donc, voilà. Et encore une fois, c'est de dire, il y a des choses qu'on peut sauver dans ces pratiques. Mais pour ça, et c'est tout l'objet de la première partie du livre, il va falloir être très dur avec le bien-être, jeter tout ce qu'il ne faut pas et garder. J'insiste, c'est pas à moi de dire exactement ce qu'il faut jeter et ce qu'il faut pas jeter. C'est plutôt de dire aux gens, développez un esprit critique et demandez-vous, est-ce que cette pratique, elle nous fait du bien individuellement et en tant que société, ou est-ce qu'elle nous abîme ?
Ouais, c'est intéressant. Et peut-être, comme tu dis, en fait, c'est vraiment se poser la question du pourquoi je le fais aussi, se poser de multiples questions, parce que des fois, finalement, on agit aussi par automatisme. Comme tu vois, les décisions qu'on peut prendre dans notre quotidien ou la plupart des choses qui nous commandent, tu vois ? Cette sorte d'automatisme, de pensée automatique, ça me fait penser aussi à la pleine présence où du coup, tu es tout le temps en pilote automatique.
Oui, bien sûr. Et puis, je pense qu'il faut aussi apprendre à penser contre soi-même. Et ça, c'est penser contre soi-même, c'est aussi quand on fréquente beaucoup les espaces de bien-être et notamment les espaces de développement personnel, on entend des choses qui sont vraiment de l'ordre de la croyance pure. Mais qui nous sont répétés en permanence, si bien qu'on est persuadé que c'est forcément vrai. L'exemple le plus facile, c'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est en gros, vos pensées créent votre réalité. Si vous vibrez des bonnes énergies ou si vous avez des pensées très très positives, il va vous arriver vachement de bonnes choses. Et puis, c'est un phénomène, un cercle vertueux qui s'auto-entretient. Mais ça, c'est en fait, c'est bon, déjà, c'est un peu une banalité. Et puis surtout, c'est. Peut-être que oui, peut-être que effectivement, si vous pensez à des choses horribles toute la journée, bah, vous allez peut-être avoir des choses horribles qui vont vous arriver. Puis de toute façon, quand vous allez, ils vont vous arriver des bonnes choses, vous n'allez même pas le voir parce que vous serez dans un logiciel de l'horreur. Mais en fait, qu'est-ce que ça dit dès lors qu'il vous arrive quelque chose de dur, si vous pensez ça, si par exemple, mais si vous êtes une femme et que vous vivez malheureusement une agression sexuelle, ou un homme d'ailleurs, mais bon, statistiquement, c'est majorité de femmes. C'est parce que vos pensées, c'est vous qui avez créé ça avec vos pensées. C'est vous qui avez vibré des énergies basses et donc du coup, vous avez créé cette situation. C'est absolument horrible et puis c'est faux en fait. Enfin, dans la société, il y a des gens qui font du mal et ces personnes, on ne peut pas plaquer un discours en disant « Ah oui, c'est la victime qui vibrait des mauvaises énergies, donc il n'y a rien à faire. Il faut juste qu'elle apprenne à vibrer des énergies plus hautes. » Mais en réalité, moi, je suis effarée de à quel point les gens... sont dans ses pensées, sont dans ses croyances. Et ça, il faut absolument les questionner. Moi, je ne peux pas vous dire quoi croire, mais je peux simplement vous dire pourquoi vous pensez ce que vous pensez.
Merci pour tes explications. Mais justement, alors Camille, pour terminer ce podcast, est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux consciences qui s'éveillent ? Ce que tu veux vraiment, je te laisse.
Bien. Je pense que ça peut être vertigineux de de choisir, de re-questionner tout ce qu'on a toujours cru comme vrai. Donc, comme ce que je disais à l'instant, ça peut être vertigineux de se dire que bah, finalement, alors que ça fait des années que vous pensez que votre pensée crée votre réalité, ou vous adhérez à des trucs comme la loi de l'attraction ou ce genre de choses, en fait, peut-être c'est pas si vrai que ça. Mais en même temps, pour moi, finalement, nous qui cherchons du sens, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, le sens, enfin, pour moi, chercher du sens et avoir une vie bonne et une vie juste, c'est aussi c'est être très à l'aise avec ça, c'est être très à l'aise avec le fait de changer d'avis, en fait.
D'accord.
Et oser changer d'avis, en fait. Pour moi, c'est, voilà, c'est un outil incroyable et ça fait vraiment de nous des personnes formidables. Par exemple, quand on a, imaginez que vous ayez une dispute avec une personne que vous aimez très fort, bah, oser dire « Ah, je me suis trompée », oser dire « Ah, bah, t'as raison, c'est moi qui avais tort ». Et attendre aussi ça de l'autre, attendre que l'autre puisse changer d'avis et se tromper, je pense que ça fait de nous des humains super chouettes.
Merci beaucoup, en tout cas, Camille. Je sais que tu organises des retraites. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur les réseaux, bien sûr.
Oui, sur les réseaux sociaux, vous pouvez me trouver. J'ai mon nom sur les réseaux sociaux, c'est @camille-dubatest, T-E-S-T-E. Et oui, j'organise des retraites de yoga avec du coup une approche qui est très féministe. Moi, je suis très engagée, très féministe. Donc, je le dis parce que c'est pas forcément du goût de tout le monde et je l'entends totalement. Mais je peux faire que ce soit clair.
Bah, merci encore pour ce partage. N'hésitez pas à partager, à commenter. On sera ravis avec Camille de lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à relayer si ça peut informer, si ça peut aider les personnes de votre entourage. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Au revoir, Camille.